l'autorité des professeurs dans leur classe est comme entourée de mystères et d'énigmes. Des professeurs en auraient naturellement, d'autres en manqueraient cruellement. Cependant, si on estime qu'il s'agit seulement d'une qualité personnelle, on exclut l'autorité des savoir-faire et des compétences des professeurs dans leur métier. Si l'autorité est une compétence d'un métier qui s'apprend et auquel on peut être formé, alors on considère que la gestion d'une classe est bien l'affaire des professeurs, et qu'elle n'advient pas par défaut parce qu'il faudrait faire face aux débordements et refus d'élèves récalcitrants. Souvent est invoquée la crise de l'autorité et le nécessaire retour à une autorité qui se fait respecter.
Cela fera partie de la révision de l'échelle des sanctions dans nos établissements scolaires que j'évoquais il y a un instant. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
De quelle autorité a besoin la relation pédagogique ? N'est-elle pas l'objet de nombreuses confusions et fantasmes ? Quels sont les obstacles à la construction d'une véritable relation d'autorité entre les élèves et leurs professeurs ? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête.
Enquête d'école, Adeline Outchranger.
L'idée d'une crise de l'autorité dans l'éducation remonte au moins à la fin des années 60. C'est l'autorité traditionnelle qui est remise en cause car elle est associée à un pouvoir autoritariste, patriarcal et colonial où il s'agit davantage de dominer que d'émanciper par l'éducation. Dans l'histoire de l'éducation, l'enfant a été longtemps perçu comme un être à redresser, à corriger, pour son salut certes, mais au moyen d'une violence rationalisée. Il fallait apprendre à l'enfant par la contrainte à se civiliser, à s'éloigner de sa nature considérée comme sauvage et pécheresse. Dès le XVIIIe siècle, naît l'idée que l'enfant est un sujet à qui on doit apprendre l'autonomie, l'exercice de la raison et qu'il faut donc s'inquiéter du consentement dans l'obéissance. Si l'enfant est seulement contraint à l'obéissance, il n'apprend pas à devenir un citoyen capable de faire ses propres choix de manière éclairée. L'éducation doit donc apprendre l'autonomie, autrement dit la capacité à se donner à soi-même ses propres lois, à obéir parce qu'on en reconnaît l'intérêt pour soi et pour le collectif dont on fait partie. La crise de l'autorité est aussi celle alors de la légitimité d'un ordre social très hiérarchisé qui laisse peu de place aux libertés individuelles.
Tout était extrêmement autoritaire dans les modes de vie, les modes d'application, etc., dans les hiérarchies. Mais que ça soit dans le travail, à l'université, c'était pareil, même peut-être dans la famille aussi. Donc là, il y a eu une crise des hiérarchies.
La Convention des droits des enfants de 1989 dicte qu'il faut
« veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain ».
Donc l'enfant est considéré comme un égal en humanité. L'autorité ne peut se donner les moyens de la violence physique, psychologique ou morale pour être respectée. Cette crise est alors l'occasion de révéler combien est confuse l'idée d'autorité lorsqu'elle est mêlée de contraintes et de violences. En opposition à l'autoritarisme, des courants pédagogiques tendent à rejeter toute forme d'autorité, y voyant toujours le risque de la dérive autoritaire. Bruno Rops, professeur de sciences de l'éducation, montre qu'il s'agit de deux positions qui contournent le problème de l'autorité. Il identifie d'un côté l'autorité autoritaire, qui exerce une domination afin d'obtenir une obéissance inconditionnelle par la soumission. Cette soumission est alors un rapport de force et n'est pas de l'autorité. De l'autre, il parle d'une autorité évacuée qui se traduit chez les professeurs par la difficulté à poser des limites et repères et par le refus du conflit, soit par l'idée que l'autorité ne relève pas de leur mission. Ainsi, pour Rops, considérer que la mission des professeurs n'est que de transmettre des savoirs est tout autant une confusion sur ce qu'est l'autorité.
Bon, eh bien je crois qu'on va pouvoir faire un cours.
L'autorité n'est pas le contraire de la liberté et de l'autonomie, elle en est la condition. Écoutons Bruno Rops à ce propos.
Toutes les définitions de référence, et en particulier celle de la philosophe Hannah Arendt, dont on nous parle très souvent quand on parle d'autorité, disent très clairement que l'autorité, c'est une influence qui, contrairement au pouvoir, s'exerce sans recours possible à la force.
Ainsi, toutes les formes de pression psychologique, emprise, manipulation, mais aussi l'humiliation et la culpabilisation ne relèvent pas de l'autorité. L'autorité charismatique n'est pas non plus souhaitable, car elle est liée à la personne, et laisse ainsi ceux qui y sont soumis en état de dépendance. L'autorité, c'est alors avoir de l'influence sur les autres, au point que les conseils et même directives données soient suivis et respectés. L'autorité est alors une condition du bien-être et du soin aux enfants, puisqu'il s'agit de leur indiquer les limites et repères du monde dans lequel ils arrivent. Mais L'autorité a d'autant plus de chances de se faire obéir qu'elle est consentie, qu'elle est librement reconnue. Cette autorité met donc en tension obéissance et liberté. Comment se faire obéir sans entraver la liberté des élèves ? Au cœur de la tension se joue le problème de la légitimité qui est à construire devant les élèves pour continuer à être, avoir et faire autorité.
Et reprenons. Le maître t'a déjà dit de mettre sur l'i l'accent circonflexe.
Il est le maître.
Et l'aime est cette fois majuscule, important, souviens-t'en virgule.
Tu es sur terre.
Mais concrètement, comment peut-on construire une relation d'autorité ? Comment peut-on s'y former et mettre fin à l'idée qu'elle serait un don inné et personnel ? Les résultats de l'enquête de Marie Beretti, enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation, révèlent un lien étroit entre autorité et confiance. Elle résume :
les élèves réfractaires à l'autorité sont bien souvent les élèves en déficit de confiance.
Ainsi, l'autorité trouverait son fondement dans la capacité à instaurer une relation de confiance. Les élèves ne prennent pas le risque d'obéir s'ils ne sont pas convaincus que l'injonction à laquelle ils obéissent est juste et respectueuse de leur dignité. Tout l'enjeu de la construction de l'autorité est alors de poser un cadre sécurisant. Il s'agit d'inspirer une confiance élémentaire par l'attention et le respect, une confiance juridique par un cadre juste et équitable, et dernier point, une confiance éducative par une pédagogie qui permet de grandir et d'évoluer dans et par les savoirs. La confiance juridique, par exemple, demande à ce que les règles qui protègent le collectif soient fermes, mais que leur sens soit explicité et discuté. Une expérience intéressante est alors celle des conseils de classe coopératifs, qui impliquent les élèves dans l'élaboration des règles, reconnaissant ainsi leur capacité à comprendre et juger ce qui est souhaitable pour soi et le groupe.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
La proposition ne s'appliquera pas.
Quand ils sont amenés à pouvoir vraiment discuter, présenter, argumenter, ça calme. Ça, c'est clair que nous, on peut l'observer dans l'école, ça. Ah voilà, ça, il suffit d'écouter les bruits. Ça calme l'ambiance générale. Le fait d'avoir sa place, d'être connu, de pouvoir s'exprimer, tout ça fait qu'on est quand même forcément moins dans la violence.
Marie Beretti synthétise la position d'autorité en trois compétences. Être stable, fiable et transparent. Être stable relève à la fois de la gestion des émotions, mais aussi de la constance. Faire ce qu'on a dit, rappeler le cadre et sanctionner s'il a été transgressé, même si cela prend du temps et de l'énergie. La fiabilité ajoute à la constance l'idée que les professeurs sont des personnes ressources en cas de conflit, par exemple. Ils écoutent toutes les parties, prennent au sérieux les inquiétudes et arbitrent pour rendre justice. Cela permet notamment de prendre en compte le groupe, d'en comprendre les normes.
Et en fait, parfois, de regarder au niveau de la dynamique de groupe ce qui se passe, essayer ben justement de changer ses normes, ses valeurs du groupe, ça permet à chaque élève de se sentir plus appartenir à la classe. Et donc, une classe où il y a un bon climat, un bon cadre éducatif, c'est une classe qui va beaucoup plus suivre les projets. Et donc, si tout le groupe classe y suit plus les projets de l'enseignant, individuellement, chaque élève qui a envie d'appartenir à ce groupe va faire en sorte de suivre aussi les demandes ou les différents projets dans lesquels les enseignants demandent aux élèves de s'engager.
La fiabilité, c'est aussi la capacité à expliciter son barème ou sa notation et à s'y tenir. Ce qui mène à l'idée de transparence et d'explicitation. Le flou et le mystère entretiennent à la fois la méfiance et la dépendance. Le micro est dans la classe était allé à la rencontre de conseils de classe coopératifs. Écoutons un extrait qui illustre une volonté d'explicitation des attentes, de transparence.
J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui sont... On leur dit des choses et en fait... Ils n'entendent pas, mais parfois c'est même aussi un souci de compréhension, c'est-à-dire travailler plus, ok. Mais là, on a une élève qui travaille plus jusqu'à 3 heures du matin. C'est pas ça qu'on entend par travailler plus. Donc il y a vraiment explicité, cette idée d'explicitation de ce qu'on attend d'eux. Ça nous met aussi dans une posture qui est différente, parce qu'on se rend compte qu'ils ils savent pas forcément ce que ça veut dire travailler plus ou se mettre en activité en classe, etc.
En plus d'être explicite, l'autorité doit reposer sur la reconnaissance réciproque. Le fait d'être méprisé, considéré comme quantité négligeable, fait obstacle à l'obéissance. Ainsi, il s'agit aussi d'être formé à comment on s'adresse aux élèves, à ce que Éric Préra nomme le tact, au sens de l'adresse et de l'à-propos, à ne jamais bousculer et faire violence aux élèves par ce qu'on dit et la manière dont on le dit.
C'est donc la vertu du comment, le tact. comment on fait, comment on dit les choses. Et vous savez, en éducation, la manière dont on dit ou dont on fait les choses, c'est tout aussi important que ce que l'on dit et ce que l'on fait.
On se rend compte que la question de l'autorité relève moins de questionnements autour de la sanction et de l'affirmation de sa supériorité statutaire que d'une nécessaire réflexion sur l'éthique relationnelle. Il est anachronique d'invoquer un retour du pouvoir de contrainte. En revanche, la voie de la déontologie enseignante a encore peu été explorée comme pilier et fondement de la relation d'autorité avec les élèves. En outre, penser que l'autorité relève de l'éthique la démystifie. Avoir de l'autorité se pense et relève de compétences relationnelles et éducatives auxquelles nous pouvons être formés. C'était Enquête d'école avec Adeline Hunscheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.